Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incendie de Lubrizol à Rouen, puisque c'est un événement important et bien sûr, ça nous fait penser à ZF dans la région. Il y a quelques comparaisons, on va y venir. Alors d'abord, Lubrizol, eh bien, c'est une usine de dépôt de produits chimiques différents, variés. On a bien du mal à voir la liste d'ailleurs, la vraie liste, qui est classée Seveso seuil haut, ça veut dire à haut risque. Alors on y réalise également des mélanges, ce qui complique un peu les affaires par rapport à la connaissance. Et cet établissement, pour le situer, il est juste à la sortie de la ville de Rouen. Alors, tout d'abord, sur l'importance de la catastrophe, eh bien, l'importance de la catastrophe, c'est la pollution, une pollution importante dans la région rouennaise et au-delà, avec des cocktails de produits qui sont différents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils ont provoqué des centaines de malaises, de nausées, de maux de tête, quelques hospitalisations. Pour l'instant, on en est là. Alors, ce qui est inquiétant, bien sûr, ce sont d'abord les effets à long terme pour la santé de la population, qui sont difficilement mesurables aujourd'hui, c'est bien le cœur du sujet. Le risque de cancer lié à ces émanations sont à craindre dans les années à venir. Cela ne peut être exclu, sauf bien sûr par Monsieur Castaner, la ministre de la Santé et le patron de l'entreprise. Alors on nous a quand même donné quelques chiffres d'analyse. Alors ces chiffres d'analyse sont assez incompréhensibles pour les non-spécialistes. Alors ce qu'on a fait, on a fait une chose très simple. On a pris les relevés d'analyse du secteur de Fos-sur-Mer. Vous savez, Fos-sur-Mer, c'est sur l'étang de Berre. Alors pourquoi on a pris Fos-sur-Mer? Puisque tout simplement c'est une ville où on a un taux de cancer anormalement élevé, ce qui a conduit à faire des analyses, justement. Et on a comparé ces dites analyses à ce qu'on nous a donné sur la ville de Rouen. Je dis nous a donné parce que bon, il y a toujours à discuter sur, disons, l'honnêteté des lieux d'analyse. Il y a certains produits qu'on nous a pas donnés. Par exemple, sur la dioxine, on nous les a pas donnés, etc. Alors si on compare ce qu'on a eu récemment sur Rouen et ce qu'on a eu il y a un an ou deux sur Fos-sur-Mer, eh bien c'est assez simple, hein, selon les types de produits, on est sur une concentration de polluants 10 à 90 fois supérieure à Rouen qu'à Fos-sur-Mer. Donc là vous voyez quand même qu'il y a un sérieux problème. Mais ça n'empêche pas Castaner de nous dire qu'il n'y a pas de risque aigu. Alors l'attitude du gouvernement, justement, on a eu le Premier ministre, Édouard Philippe, on a eu le ministre de l'Intérieur, on a eu le ministre de la Santé et encore un ou deux autres, qui ont nié l'évidence et minimisé les risques. Selon eux, pas d'émanation nocive, hein, je cite, hein, et l'entreprise était conforme en termes de réglementation. Alors ça, cela en dit long sur l'attitude de ce gouvernement qui s'avère incapable de tenir son rôle devant une multinationale fautive. Alors je dis ce gouvernement, j'ai un petit peu tort, parce que les gouvernements précédents nous ont fait le même coup sur des événements majeurs. On sait, nous, depuis le début, mais eux visiblement ne le savaient pas, que l'amiante contenue dans les toiles de fibro, il y a eu plus de 1000 mètres carrés de toiture qui ont été dispersées, bien sûr, posait problème. De même aussi, par exemple, que le plomb contenu dans les peintures des bacs, puisque en matière industrielle, on a depuis peu seulement interdit le plomb dans les peintures. Alors tout ça, ça a été nié dans un premier temps, maintenant c'est plus difficile. Et le communiqué tardif de la préfecture, qui est sorti donc 5 jours après, uniquement sur notre lourde insistance, quand je dis notre, c'est celle en particulier de la CGT, des riverains et des organisations environnementales du secteur, a été sorti, donc, comme je viens de le dire, 5 jours après seulement. Alors on n'a pas tout, Mais ce que nous dit le gouvernement, c'est que 5000 tonnes de produits ont été détruits. Alors détruits, c'est lui qui le dit, puisque en réalité, les uns brûlés, tout ce qu'on voit de noir dans une fumée, c'est tout simplement ce qui n'a pas brûlé, a été dispersé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi les effets cocktails qui compliquent un petit peu, finalement, les analyses. Ils ont été dispersés à plusieurs dizaines de kilomètres dans, selon le le passage du nuage. Alors voilà encore un exemple de ma malhonnêteté parmi tant d'autres, de nous dire que finalement, ces 5000 tonnes de produits auraient été détruits. Ils n'ont pas été détruits, on va les retrouver dans les champs, dans les écoles et ailleurs, en tout cas en partie. Alors, l'usine de Lubrizol n'en est pas à son premier coup, puisque déjà en 2013, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait eu un nuage toxique particulièrement important de dégager à l'époque, important puisque les gens de la ville de Londres, j'ai bien dit la ville de Londres, s'étaient plaints, donc il était parti selon le sens des vents sur le Havre, puis après sur Londres, et ensuite, ou avant, je ne me rappelle plus, il était parti également sur la région parisienne. Eh bien, ce nuage avait été déclaré prétendument inoffensif, bien que la population en ait souffert. Là également, la préfecture avait verrouillé particulièrement l'information. On nous avait dit qu'il n'y avait pas de blessés, par exemple. Et il y a eu plus tard une condamnation de l'entreprise, une condamnation tout à fait ridicule de 4000 euros. Alors, il faut savoir que Lubrizol est une multinationale et que les condamnations sont faites pour être dissuasives, pour faire passer le message de ne pas recommencer, en quelque sorte. Eh bien là, évidemment, c'est loupé. C'est loupé. Alors, j'ai calculé, moi, ce que ça voulait dire, 4000 euros, par rapport à la fortune personnelle du patron. Alors, le patron, c'est Warren Buffett. Alors, on va le retrouver chez Coca-Cola, par exemple. Vous voyez un petit peu. Quatrième fortune mondiale. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et une condamnation de 4000 euros. Alors, j'ai fait un ratio, une division, et j'ai comparé ce que ça pouvait valoir, 4000 euros, par rapport à le salaire mensuel d'un smicard. Eh bien, pour Warren Buffett, cette condamnation de 4000 euros, quand on fait le ratio, ça équivaut, en gros, à 1 centième de centime de sa fortune personnelle. Donc, 1 centième de centime d'euros de condamnation en ratio avec ce qu'aurait payé un smicard. Quand on fait les comparaisons, vous voyez à quel point cela peut être dissuasif. Et c'est assez classique, d'ailleurs, dans ce genre d'affaires, de condamner des multinationales à des sommes dérisoires, ou de pas les condamner du tout. D'ailleurs, c'est le problème de l'amiante. On va en parler dans une autre chronique. Alors, en ce qui concerne l'attitude de l'entreprise, eh bien, Lubrizol reprend la même stratégie que le groupe Total et généralement toutes les multinationales dans l'affaire AZF. Hein. Il nie, en fin de compte, être à l'origine du sinistre. Hein. Il cherche à trouver un certain nombre de pistes pour dire « c'est pas moi, c'est l'entreprise voisine, c'est peut-être un acte malveillant, etc. etc. » Alors, faut savoir que pour Toulouse, la combine a bien failli marcher hein, devant les cours d'appel, qui ont néanmoins quand même vu clair et condamné. Condamné, là encore, à des peines purement symboliques, hein, ridicules sur le plan financier par rapport à la multinationale, mais condamné tout de même. Et si je dis ça, c'est que tout le monde parle de Seveso, mais peu de gens savent que la catastrophe de Seveso en Italie a donné lieu à aucune condamnation, puisque précisément la combine a bien marché. Les juges se sont avérés incapables de déterminer l'origine du sinistre et donc de condamner. Alors voilà, le sujet est un petit peu lourd, alors je vous propose une petite pause musicale et j'ai trouvé une chanson de circonstance faite spécifiquement pour Lubrizol, intitulée La Suie, sur l'air de Les Vaches Rouges et Blanches de Normandie, chantée par Charline von Neurker et Frédéric Frommet. Je vous la passe et on se retrouve dans quelques minutes.
Les vaches noires, noires et noires, sur lesquelles tombe la suie,
et les cerisiers noirs, made in Normandie.
Une chouette odeur d'œuf pourri, des cendres dans la prairie.
C'est ça l'écologie, made in Normandie.
Fumée made in Normandie, toxique made in Normandie. C'est pas ça qui a tué Chichi.
Circuler, y a rien à voir.
C'est le préfet qui le dit.
Il l'a écrit noir sur noir.
Formule made in Normandie.
Il faut pas voir tout en noir. C'est un très bel incendie. Voici le nouvel or noir pour la région Normandie.
Contre les problèmes de peau, plus besoin de dermato.
Une bonne couche de suie made in Normandie.
Grâce à l'usine Lubrizol, plus besoin de Biactol.
Plus besoin de cure thermale à Vichy.
Ça règle aussi la question, poubelle verte, jaune ou marron. Y'a plus qu'une poubelle noire ici.
Et voici le nouveau cidre
qui comble l'appétit.
En formule solide,
aux cendres de Normandie.
De nouvelles spécialités offertes par la chimie, comme le camembert fumé à la suie de Normandie. Quand il y a des nuages, on dit que le ciel s'assombrit. Mais c'est un heureux présage s'ils sont made in Normandie. Car c'est cousu de fil noir, c'est un nouvel essor. Un formidable espoir, ça marche aussi à l'export. En Belgique, aux Pays-Bas, pour donner aux gens de là-bas, pour donner aux gens de la suie made in Normandie.
Eh bien, on reprend le fil de notre émission sur Lubrizol, l'incendie à côté de Rouen, qui a démarré donc le 26 septembre, donc on est dans l'actualité. Alors, autre sujet, la gestion de cette partie de l'établissement était sous-traitée. Donc ça, ça pose un problème considérable. Comme d'ailleurs, et c'est pas innocent si je dis ça, le fameux hangar 221 d'AZF à Toulouse. Comme fréquemment, lorsqu'il y a un accident majeur, on s'aperçoit qu'on a abandonné finalement les salariés à leur sort par la sous-traitance, par le dumping social, l'utilisation de travailleurs précaires, etc. C'est un grand classique. Alors, une entreprise, donc l'entreprise Netman, qu'on connaît sur la région, qui est une entreprise de manutention qui n'est absolument pas spécialisée dans les produits chimiques, et pour en rajouter une partie des stocks qui ont été confié à l'entreprise voisine de façon douteuse, hein, donc on n'est plus du tout sur 5000 tonnes en fait qui aurait été consumées, mais bien davantage. Alors ça, c'est identique à l'accident d'AZF. Alors si je dis ça, c'est parce qu'on connaît les phénomènes et on sait qu'il faut pas faire comme ça, il faut pas sous-traiter dans les installations classées au risque, hein. La CGT le dénonce depuis 1985. On va retrouver aussi le fait qu'il faut pas sous-traiter dans les entreprises à haut risque, notamment dans la commission d'enquête parlementaire suite à AZF, donc un an après, en 2002, qui explique qu'il faudrait proscrire finalement ce type d'utilisation de la main-d'œuvre. On va le retrouver dans les deux jugements en appel qui condamnent AZF, où finalement les juges expliquent que cette forme d'utilisation de la main-d'œuvre a conduit finalement à perdre la maîtrise de l'outil, mais néanmoins, on va retrouver encore et toujours ce type de dumping social, finalement, alors dans la plupart des entreprises en France aujourd'hui, mais aussi et en particulier pour ce qui concerne les entreprises à haut risque, aussi pour ce type d'entreprise. Alors, on peut affirmer qu'en 2019, aujourd'hui donc, la situation en France, de ce point de vue-là, sur les formes de dumping social, de déréglementation du travail et de sous-traitance, est finalement pire qu'en 2001. C'est-à-dire qu'on sous-traite davantage aujourd'hui qu'on sous-traitait en 2001, y compris dans les entreprises à haut risque. En plus, comme vous le savez, Macron s'est chargé de casser le code du travail et le code de l'environnement, lui, est attaqué régulièrement depuis 2009. Il y a eu plusieurs agressions successives et on est, en termes de contenu du code du travail, en termes de contenu du code de l'environnement, dans une situation qui est pire aujourd'hui qu'en 2001, le jour de la catastrophe d'AZF. À Lubrizol Rouen, la dite simplification, puisqu'ils appellent ça simplification, quand ils retirent des obligations, ça s'appelle simplification, hein, finalement, a été effective, puisqu'en fin de compte, il y a une nouvelle régression en 2018 sur le code de l'environnement, et début 2019, la direction de Lubrizol réclame à deux reprises des modifications de production, notamment s'il s'agissait en l'occurrence d'augmenter les stocks. Eh bien, le préfet utilise les nouveaux textes qui lui permettent de donner un feu vert sans étude d'impact sur l'environnement, sans étude de danger. Donc, on est au cœur du sujet. À Lubrizol, cette année, en début d'année avant l'incendie, le préfet a utilisé finalement cette possibilité de ne pas réclamer finalement d'études de risque en matière d'environnement et de donner un feu vert pour l'augmentation des capacités. Il est insupportable de constater finalement que la police de l'environnement et nos institutions politiques en particulier se refusent à tenir compte des leçons du passé. On connaît ces modes d'organisation du travail à éviter. Aujourd'hui, par exemple, dans les entreprises classées au risque, il y a plus d'accidents T du travail qui sont sous-traitants que de salariés organiques. C'est un indicateur tout de même qui devrait être pris en compte. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour Lubrizol. Alors, parmi les revendications que l'actualité nous commande de rappeler, puisque les solutions, on les connaît, je en rappelle que quelques-unes, la liste est plus longue, mais tout de même, il faut rappeler au moins celle-ci. Bien sûr, la suppression de la sous-traitance et de la précarité dans les industries chimiques à risque, on pourrait dire ailleurs aussi, mais au moins celle-là. L'indépendance des organismes de contrôle, en particulier les DREAL, puisqu'elles sont absolument pas indépendantes aujourd'hui. Le retour des CHSCT et l'amélioration de leurs prérogatives, puisque vous savez que Macron les a supprimées. La mise en œuvre de registres de cancer dans tous les départements. Il en existe dans certains départements, mais pas aucun dans les départements où il y a le plus d'industrie chimique, c'est assez original, ça doit être le hasard. La transparence sur les questions de santé publique et qu'elle prime sur le secret des affaires, on n'y est pas du tout. Il y a des ordres qui sont donnés, notamment à la Sécurité sociale, de ne transmettre aucune information sur le nombre de blessés, par exemple. Et que pour les travailleurs, lors d'accidents industriels, on puisse leur garantir l'emploi et le maintien des salaires. Alors, il y a bien sûr d'autres revendications, mais j'ai essayé de faire un tri pour ne retenir ce qui était, à mes yeux, les principales. Voilà pour l'incendie de Lubrizol. Alors, je ne dis pas, on espère que ça se reproduise pas encore, puisqu'en fin de compte, si on modifie pas ces questions politiques, ça se reproduira. À bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Caylus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.